Tout son but, c'était de nous aider à nous rapprocher d'Hachem et c'est ça en fait faire tchouva, d'accord? C'est-à-dire le terme faire tchouva, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Chacun avec comment Hachem il a décidé aussi comment il va se rapprocher. Ça veut dire, nous on pense qu'on décide comment on va se rapprocher d'Hachem. Il y en a même qui disent j'arrêterai de travailler, quand je serai à la retraite, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Tout ça en été, c'est faux. Tout, c'est Hachem qui décide quand est-ce qu'on va faire tchouva et comment on va faire tchouva, par quel événement. Et Rabbeinu disait, et tout le but de Rabbeinu, c'était bien de nous ramener comme ça vers Hachem, c'est de nous donner des conseils pratiques et faciles, entre guillemets, d'accord, d'utilisation, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et un jour, Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il a dit, j'ai tout essayé, et je vois que ça ne vous fait pas bouger, c'est-à-dire vous ne vous rapprochez pas d'Hachem, c'est-à-dire vous ne brûlez pas pour Hachem, vous ne comprenez pas que toute la vie, en réalité, c'est le but de la vie, c'est quoi? C'est d'être avec Hachem, d'être complètement dans sa tête, c'est-à-dire on est là, mais notre tête, elle est dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, alors à partir de maintenant, je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires qui n'ont jamais existé encore dans le monde. Et il a dit, à travers ces histoires, eh ben, vous allez faire tchouva. Et donc, c'est comme ça que Rabbeinu, il a commencé à raconter les contes, d'accord, tous les contes de Rabbi Nachman. Et c'est vrai que quand on lit les contes, alors à première vue, on ne comprend rien. On se dit, mais c'est quoi ces histoires? Mais en fait, dans chaque conte, en réalité, il y a des secrets énormes de la Torah. Il y a énormément d'allusions, en fait, à la vie. Et en fait, si on regarde bien, dans chaque conte, je suis dans un conte, je suis le conte, et le conte est ma vie. Après, il faut savoir, doucement, déchiffrer ça. Il n'y a pas une manière d'expliquer un conte. Chacun peut expliquer le conte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui est complètement versé dans l'étude de Rabbi Nachman. Ça veut dire, n'importe qui, elle prend le conte. Et quand elle lit, ben, elle va l'interpréter comme elle pense que ça doit être interprété. Et ce ne sera pas faux. C'est ce que Hachem lui aura donné aujourd'hui. Et doucement. Donc c'est pour ça que quand on parle des contes, il n'y a pas une version. Il y a plein de versions. D'accord? Et chacun, c'est ce que l'on Akadosh Baruch Hu lui donne. Et c'est sûr que plus on est attaché au tzaddik, plus on est attaché aux enseignements du tzaddik. Alors c'est sûr que on va peut-être comprendre un peu plus en réalité parce qu'on a des codes, d'accord, dans le Likutei Moharan par exemple, il y a plein de codes, il y a plein de dans le Likutei Tfilot qui nous permettent, d'accord, d'arriver un petit peu plus à l'intérieur du conte et de comprendre un peu plus ce que Rabbeinu a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire véritablement, jamais personne ne saura. On le saura tout au moment de Mashiach. Il y a même un des contes, le conte des sept mendiants, qui est merveilleux, où il y a marqué la suite quand Mashiach viendra. Et donc, on sait une chose, c'est que quand, par exemple, une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, on lui dit, c'est bien de lire les contes Shabbat. Ça stimule la femme pour qu'elle tombe enceinte. Quelqu'un qui a vraiment du mal à faire tchouva, alors au lieu de lui faire blablabla, on lui dit, tu sais quoi, lis les contes. Ça veut dire comme ça, on lui laisse les contes et qu'il les lise. Ça touche le cœur, ça touche la neshama. Donc voilà pour les contes. Donc oui, on fera en Bezrat Hashem un conte, si Dieu veut. Mais j'aime bien d'abord, ça veut dire rentrer un peu, tu vois, dans les Torahs de Rabbeinu pour qu'on comprenne après plus facilement en réalité, tu comprends? Parce que faire le conte directement, c'est comme si je te dis, mais t'as pas encore étudié Aleph Bet, t'as pas étudié le Chumash, tu veux déjà rentrer dans le Zohar, dans la Kabbalah. C'est tu vois, c'est brûler quelques étapes.
Oui, mais moi, c'est d'un conte,
ouais,
que mon cœur s'est ouvert.
Ah oui, mais je t'ai dit, lire les contes.
Parce que je savais pas c'est qui c'est Rabbi Nachman. Je voyais Yael, mais elle ne me parlait pas trop de Rabbi Nachman, etc. C'était... Mais quand on m'a raconté un conte, j'ai compris le conte. Je me suis dit, waouh, mais c'est extraordinaire.
Ah oui, oui, les contes, je te dis, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu.
C'est waouh.
Mais
je vous dis, moi, qu'il faut un conte.
C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Il a dit, quand tu vas commencer à lire les contes, ton cœur, il va s'ouvrir.
Ah oui,
parce que, qu'est-ce qui fait que... On...
Non. Je vais vous le montrer après.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à revenir vers Hachem? c'est que on s'en rend plus compte, d'accord, mais on a une pierre. On a une pierre à la place du cœur et il n'y a plus rien qui nous fait bouger, il n'y a plus rien qui nous sensibilise. Il y a, jusqu'à qu'on va être sensibilisé aujourd'hui, ça, il faut faire déployer des choses, vraiment des armées, des choses terribles. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Parce que, Bémet, qu'au fur et à mesure, d'accord, du temps et des générations, et avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, eh ben, on s'est un petit peu désensibilisé, on va dire. D'accord ? Donc, Rabbeinu, il avait prévu ça. Il avait prévu cette fin des temps où les gens n'auraient plus vraiment de sensibilité. Et donc, il a dit, en effet, les contes, c'est ce qui va nous aider à ouvrir notre cœur. Donc, Bezrat Hachem, si Dieu veut qu'Hachem, il nous donne le mérite de faire un conte. Alors, on va revenir un petit peu. On n'avait pas fini, vous vous souvenez, celle qui était là, la semaine dernière, on n'avait pas fini la Torah 115 du Likutei Moharan. Pour celles qui sont nouvelles, le Likutei Moharan, c'est l'œuvre maîtresse de Rabbi Nachman qu'il a écrit. C'est des torotes, c'est des enseignements. Pas obligé de lire les fiasséder, ça veut dire selon dans l'ordre. On peut ouvrir comme ça. Il y a des torotes où on ne va rien comprendre. Et il y a des torotes où... ouais, tu as déjà ouvert Nachon. Il y a des torotes où tu ne vas rien comprendre, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave parce que la Neshama, elle comprend. Et il y a des torotes, où tu comprendras mieux. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah vivante, le tzaddik qui te parle, le tzaddik qui est en toi. Donc aujourd'hui, tu n'as peut-être pas compris, mais ce n'est pas grave. Lis-la, et puis jamais. Et puis ce que tu devais prendre, tu prendras. Et puis si même tu as l'impression que tu n'as rien pris, ce n'est pas vrai. Tu prends toujours en lisant la Torah du tzaddik. Une autre fois, Hachem, il te remènera sur des torotes où tu n'avais pas compris, et puis aujourd'hui, tu comprends. C'est comme ça. Donc, dans notre Torah 115, de quoi on parlait ? On parlait du fait que souvent un homme, quand il passe sa vie, et ça nous concerne à tous, bien sûr, on passe notre vie dans la matérialité, et qu'à un moment donné, on se réveille. Boker Tov.
On est des chaises. Il y a deux chaises.
Boker Tov, les copines.
Boker Tov.
Donc un homme qui.
Prenez des chaises.
Boker Tov.
Boker Tov. Plein de nouvelles, là. Ça va, les filles ? Comment ? Ça me fait plaisir de vous voir, je suis obligée de le dire. C'est les filles de Ramat Aviv.
Bonjour.
Grave. Vanessa. Yael. Karine et Sandrine.
Voilà, c'est ça.
Bonjour.
On s'est décidé ce matin.
Ah là là, c'est incroyable. Kolakavot, la prochaine.
Donc, on disait que... bon, vous arrivez juste à point, on commence. Juste avant, c'était une introduction. Donc, on disait qu'un homme qui, toute sa vie, marche dans la matérialité, donc c'est nous, hein, on est tous, on est très, très dans la matérialité, et qu'un beau jour, Hachem fait qu'il va s'enflammer pour se rapprocher, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu et commencer à faire Torah ou Mitzvot. Alors, on avait dit la semaine dernière que nos avérotes, d'accord, nos fautes, elles vont venir quelque part et elles vont venir avec un doigt accusateur de dire mais comment ? Même pas en rêve. Celle-là, celui-là, comment il était, qu'est-ce qu'il a fait et quoi ? Maintenant, comme ça, il veut faire tchouva, il veut se rapprocher de toi, mais même pas en rêve. Donc, un homme, d'accord, quand il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il va avoir des obstacles. Ces obstacles, en réalité, d'accord, ben c'est les fautes qu'on a fait, parce qu'on en fait, c'est comme ça, c'est la vie, okay, qui vont venir et poser un doigt sur nous, accusateurs, en disant, même pas en rêve, d'accord, cette personne, elle ne va pas faire tchouva. Et là, il va commencer à dire, et elle a fait ça, et elle a fait ça, et elle a fait ça, c'est-à-dire que même toi, tu ne t'en rappelles même pas des choses, et vas-y. Et des choses que tu dis, mais je ne sais même pas, on ne m'a même pas dit que c'était assourd. Et pourtant, on y va dans le doigt accusateur. Et donc ça c'était et donc il disait et il nous laisse pas donc nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et après il nous disait comme ça que en réalité Akadosh Baruch Hu en vrai d'accord il se dissimule à travers tous ces obstacles et on avait dit que Akadosh Baruch Hu en réalité il y a un passage dans la Gemara qui dit où se trouve Hachem et à nous de répondre, Hachem, il se trouve à Tel Aviv, en pleine boîte de nuit. Il se trouve à Eilat, il se trouve à San Francisco, à Miami, à je ne sais pas où, là où tu veux. Hachem, ça veut dire, on doit tous comprendre qu'il ne se trouve pas dans des sphères, tu vois, très hautes ou quoi. Hachem, au contraire, il se trouve à l'intérieur de l'obscurité, dans les endroits les plus bas, dans les endroits vraiment les bas-fonds des bas-fonds. C'est là-bas où Akadosh Baruch Hu il est. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Et donc, il te dit, donc, Bémet, que première chose, on te dit, un homme qui est avisé, d'accord, et il faut être avisé, il faut savoir que quand tu veux faire tchouva, alors on ne va pas te mettre un tapis rouge, à moins vraiment des cas exceptionnels, on ne va pas te mettre un tapis rouge en te disant, allez, viens, machin, pas du tout. On va au contraire te mettre des obstacles pour que justement tu te retrouves en difficulté pour te rapprocher d'Hachem. Parce que quelque part, quand tu veux rentrer dans le palais du roi, eh ben, tu fais touk, 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 et puis on te dit, bah, attends, 2 secondes, c'est pas comme ça, on ne peut pas rentrer. Et toi, tu ne dois pas t'arrêter de dire touk, touk, jusqu'à ce qu'on va t'ouvrir la porte. Ça, il faut le savoir. D'accord ? Ça veut dire, jamais, quand tu veux faire tchouva, et que tu vas avoir un obstacle. C'est quoi les obstacles ? D'accord ? Quand on dit les fautes, elles vont venir et elles vont nous accuser. C'est quoi les obstacles ? Les obstacles, ben, c'est tout ce qui nous entoure. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être son propre mari, ses propres enfants. Ça peut être notre esprit aussi, d'accord ? Ça veut dire, tu te dis ce matin, c'est quoi ce matin ? Je sais pas, j'ai envie d'aller ben, voilà, écouter un cours de Torah. Et puis après, mais non, laisse tomber, c'est bidon. Toi, tu vas aller écouter un cours de Torah, mais ma kéchère, viens plutôt, on va faire les boutiques, viens plutôt, on va boire un petit café entre copines, viens plutôt, on va à la plage. Chacun, il va avoir son truc, d'accord ? Et, ou alors, quelqu'un qui dit, ben, aujourd'hui, j'ai décidé de faire Shabbat. Shabbat, mais tu te rends compte comment tu vas faire Shabbat, mais c'est impossible, et comment tu vas faire pour sortir, et la famille, qu'est-ce qu'elle va dire, et ton mari, et chacun, d'accord, il aura son obstacle, ok? Donc on te dit, sache que Dafka, précisément cet obstacle qui va se mettre devant toi, eh ben, c'est Hachem lui-même. Et ça, tu dois le savoir. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé que Akadosh Baruch Hu, il aime la justice. Et Hachem, il a mis en place, d'accord, une justice dans le monde, ok ? Mais on avait dit que Hachem, il aime aussi la miséricorde. Et on avait dit que plus que tout, Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple d'Israël. D'accord ? Ça, c'était ce qu'on avait dit en très grand et en très rapide. Et il avait dit comme ça, on avait parlé aussi que donc Akadosh Baruch Hu, il se dissimule à travers les épreuves. Ainsi, alors maintenant, on reprend le texte, d'accord ? Ça, c'était ce qu'on avait dit en rapide la semaine dernière pour que chacune, elle sache un petit peu ce qui s'était dit. Et on avait parlé aussi, justement, pardon, on était arrivé, et je crois que c'est comme ça que, du coup, elles se sont toutes inscrites pour venir à Ouman. Voilà, parce que ça, je le vois, je me dis, attends, mais ça, on l'a dit. On avait dit que dès que tu veux, d'accord ? Parce que dans les voies d'Hachem, tu ne vas pas arriver. Il y a une vérité, d'accord ? Et après, tu as une vérité absolue. Donc, la tchouva elle-même, elle est doucement, elle est lente. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver à la vérité absolue. Parce que c'est impossible que tu te reçois un projecteur, d'accord, de 100 000 watts en pleine tête. Tu vas être aveuglé, tu dis je ne peux pas, c'est impossible. Donc, c'est un process, bien sûr, ça veut dire c'est doucement, doucement. Donc au début, tu vas découvrir une vérité. Tu vas découvrir une vérité. Laquelle ? Celle qui te convient plus ou moins. Chacune, elle a sa vérité qui lui convient. Ça veut dire on ne va pas trop te déranger, d'accord, dans ton confort, dans ta zone de confort. Donc c'est une vérité, voilà, tu découvres Hachem, tu découvres les machins. C'est sympa, d'accord ? On va dire que c'est light. Ça veut dire qu'on ne va pas te mettre d'un coup, ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et ça, et ça. Parce que tu vas dire, bah, écoute, laisse tomber, c'est impossible. Je ne peux pas. Pourquoi ? Je suis trop attachée à ma matérialité. Je suis trop attachée à ma zone de confort. Ça veut dire quoi, en bref ? Ben, je suis attachée à mon jean. Je suis attachée à la mode, je suis attachée à sortir le Shabbat, je suis attachée à ma boîte de nuit, je suis attachée à mon petit restaurant où je sais que là-bas, il y a des petits plats que j'adore. Je suis attachée à, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait sortir encore ?
Les restaurants, ça me parle. Hein.
Ouais. Oui, ben oui. Je suis attachée à mon maillot de bain, je suis attachée au regard que l'autre il va poser sur moi, je suis attachée au qu'en dira-t-on. Je suis attachée à tout ça, d'accord ? C'est ma matérialité. Tout le monde a sa matérialité. Ça n'existe pas, quelqu'un qui te dit « bah non, moi, je ne suis pas du tout dans la matérialité. » Donc, comment ?
Il faudrait vivre dans une grotte.
Et encore. Tu sais quoi ? Et encore, parce que tu sais aussi, la matérialité, souvent, elle est dans ta tête. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc, même ça, c'est pas... Ça veut dire, là, on parle de l'extérieur, mais c'est aussi dans ta tête, très souvent, que tu te... On est tellement éduqués, on a tellement, pas seulement de nos parents, d'accord, c'est de génération en génération, on est tellement, tu vois, bloqués comme ça dans des carrés, dans un système, que t'oses même pas sortir du système. Tu comprends ce que je veux te dire ? Des fois, tu peux prendre une personne le matin, lui dire, tu vois, on va se balader, tout simplement. Je dis, se balader ? Mais ça veut dire quoi ? Tu veux quoi ? Ben viens, on va faire une balade, on va aller dans les montagnes, on va faire on va sortir des sentiers battus et on va aller, tu vois, un petit peu se perdre dans la forêt ou dans une montagne. La fille, elle dit, mais t'es dingue ou quoi ? Ça veut pas, quoi ? T'as pas autre chose à me proposer ? Tu vois, pourquoi ? Parce que la fille, tu l'as fait sortir de son sentier, tu vois ? Ça veut dire ce qu'elle a à faire. Et puis même, une sortie qui est complètement... qu'est-ce qu'on va faire dans la forêt ? Et qu'est-ce qu'on va faire dans la montagne ? Tu vois, elle se dit pas, attends, ça va être un kiff. On va sortir, ça veut dire, de la routine. On va sortir, ça veut dire, de ce sentier, de ces carcans-là dans lesquels on m'a bloqué toute ma vie. Et on va aller découvrir des nouvelles choses. Tu comprends ? C'est merveilleux, en réalité. C'est ça, un juif. Un juif, en réalité, il reste pas dans une petite routine, dans un petit sentier. Non, un juif, il est capable d'aller tous les jours au-delà de ses limites. Tous les jours, il est capable de dire, tu sais quoi, j'explose la barrière, je vais voir autre chose. C'est ça, un juif, c'est-à-dire, tu vas chercher, pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? Tu vas chercher la vérité. Parce qu'on ne sait pas, nous, où elle est, la vérité, Bémet. Tu comprends ? Donc, mais on a peur. On a très peur de sortir, d'accord, de notre petit cadre et d'autres trucs. Donc... Ça aussi, tu comprends, c'est-à-dire que même si tu es dans une grotte enfermée, tu resteras en réalité, si tu veux, dans ton cadre et dans ton petit, dans ta petite zone de confort. Pourquoi ? Parce que tu as tellement peur de bouger. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Le Yetzer Hara, d'accord ? C'est quoi le Yetzer Hara ? Il avait dit Rabbi Nachman, c'est ton dimion. Le dimion, c'est l'esprit, c'est ton imagination, d'accord ? Donc ton dimion... Il va commencer donc à te bloquer. Il va dire, mais tu ne peux pas faire comme ça, et ça, c'est ça, et si tu bouges là, et si tu fais ça. Et en réalité, d'accord ? Qu'est-ce que ça peut faire si tu as été à droite ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Rien, il ne va rien se passer. D'accord ? Donc, tout ça, c'est dans notre tête, véritablement. Et on va le voir doucement, doucement. Donc, on avait dit que dès qu'une personne, elle veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et qu'elle veut aller, ça veut dire, d'accord, dans le chemin de vérité, hop, les obstacles, les obstacles, les obstacles. Et puis, quand on commence à rentrer dans la Torah, alors, tu vas rentrer, mais doucement, doucement, doucement. Et tout le but de la tchouva, c'est quoi ? C'est de demander à Hachem, je veux pas juste la vérité. Parce que nous, on sait qu'on est des menteuses, d'accord ? Et qu'on veut quoi comme vérité ? Ma vérité, qui va me permettre de rester dans ma petite zone de confort, d'accord ? Rester dans mon petit mensonge, dans mon petit égoïsme, ma petite hypocrisie. Je fais du tmanique. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire à Hachem ? Non. Je veux pas que la vérité. Je veux la vérité absolue. C'est quoi la vérité absolue ? C'est ce qui va me déranger. C'est ce qui va me faire bouger de tous les côtés. C'est ce qui va m'émettre, ça veut dire me faire sortir de cette zone de confort. C'est ce qui va me permettre, si tu veux, de casser un petit peu toutes ces idées et qui va me dire, tu sais quoi, viens, je vais me donner cette possibilité d'être moi. Pas celle qu'on voudrait que je sois, moi. Que je ne sais même pas qui c'est en vrai, moi. D'accord ? Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu tous les jours, Ribono Shel Olam, aide-moi, d'accord, à te servir et à te rechercher et à chercher la vérité absolue. C'est ça que tu... Comment ?
Sans
épreuve. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Les épreuves, ça fait partie de la vie.
Oui.
Parce que, bien sûr qu'on ne les cherche pas. David Ameller, lui-même, dans le Tehillim, disait, ne me mets pas devant les épreuves. Personne ne cherche les épreuves. Mais ça n'existe pas sans épreuves.
Parce que très souvent, on arrive à la vérité absolue par les épreuves. Donc, quand vous dites qu'il faut prier à Hachem... Bah oui, la vérité absolue sans les épreuves.
Sans
ça serait super.
Alors, tu sais quoi ? Viens, on va se dire comme ça. La vie, c'est pas un conte de Walt Disney. Enfin, à l'époque où moi je voyais Walt Disney, je ne sais pas aujourd'hui ce que ça peut être. Mais la vie, ce n'est pas un conte de Walt Disney. Et je vais te dire une chose, la vie, ce n'est pas toujours... Et ils se connurent et eurent beaucoup d'enfants et ont été très heureux. Non, la vie, c'est plutôt... Et ils se connurent et ils se sont aperçus que ce n'était pas facile. Et ils se sont aperçus qu'il va falloir bosser très, 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 très dur, relever les manches. Et surtout, croire en HM très, très fort que c'est HM qui les a fait rencontrer. Sinon, ils ne pourront pas supporter, ils pourront pas se supporter l'un et l'autre. Et ils vont dire, écoute, on s'est trompé, il va falloir qu'on se sépare et qu'on fasse chacun chemin. Ça, c'est la vraie vie, tu comprends? Donc, et ça, ça, fait des, ça, c'est des épreuves. Tu comprends? Ça veut dire, quand tu te maries et que tu crois que ça va être le top, et que le lendemain matin, d'accord, tu t'aperçois que ben, ce n'est pas tout à fait ça, c'est une épreuve en soi. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est, je croyais qu'il était comme ça, comme ça, comme ça, et puis total, le contraire. Il a caché, ça veut dire sa vraie personnalité, et lui aussi se dit ça. Hein. Croyez pas que c'est connu. Tout le monde se dit ça.
Dans la vie, les épreuves, ce qui ne tue pas renforce.
Exactement. Donc ça veut dire que si tu veux, la vraie vie, encore une fois, on ne va pas demander des épreuves. Mais comme tu l'as dit, pour arriver à la vérité absolue, tu comprends, tu vas être obligé, et c'est HM qui fait ça, tu vas être obligé de passer par des épreuves. Mais ce sont des épreuves qui te sont envoyées, d'accord, spécialement pour toi. HM, il sait exactement ce que tu dois passer et comment tu peux les passer. Et au même moment où Akadosh Baruch Hu t'envoie l'épreuve, en vrai, il t'envoie aussi les forces, d'accord, pour supporter cette épreuve. Mais, d'accord, et c'est ce qu'il dit ici, d'accord, c'est l'obstacle. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Donc, ta tête, que ta tête, hein. Tu te dis, mais tu ne pourras pas, c'est trop dur, c'est noir, c'est affreux, ça va rester comme ça toute la vie. Et là, tu te fais un film. Maintenant, tu n'es plus dans l'épreuve, hein. Là, maintenant, tu es dans ton film de science-fiction. Et il est terrible. Pourquoi? Parce que ton Yetzer Hara, il connaît tes points faibles. Et il sait ce qui te fait peur. Ça veut dire qu'à une, il va lui faire ouh, et à l'autre, il va lui faire doudoudou, et l'autre, bah, chacune, il va savoir qu'est-ce qu'il va faire. Tu comprends? Ça veut dire personne, chaque, même si tu prends deux personnes qui vivent la même épreuve, pareil, c'est quoi? Deux frères et sœurs. C'est les mêmes, ils sont venus d'une même mère, même éducation, tout ce que tu veux. Les deux vont vivre leur épreuve différemment.
Même parce quand que tu perds un proche, que tes frères et sœurs et que tu perds, moi je Bidouk, perds ma mère.
Nahon, chacun y va.
Chacun vécu la mort de ma mère très différemment.
Donc, on voit que très quoi très bien sûr, pourquoi? Parce que chacun, comment, d'accord, le Yetzer Hara, il va vouloir l'attaquer et comment il va vouloir donc le bloquer dans cette quête de la vérité absolue. Donc, plus tu vas te rapprocher de la vérité absolue, plus l'obstacle, il va, on va dire, grandir. Et donc, il te dit, on le prend dans le texte. Ainsi, lorsque la tribu de justice vient accuser celui qui n'est pas digne de se rapprocher d'Hachem, ne laissant pas s'engager sur la voie de vie qui consiste à se rapprocher du juste de vérité, du chemin de vérité. Alors, puisque Hachem, plus pourquoi? Parce qu'Hachem, il aime la justice. Donc, d'accord, on avait dit que Hachem, il aime la justice. Donc, quelque part, il est obligé, d'accord, de s'habiller dans les épreuves, dans l'obstacle. Parce qu'on a dit que le doigt accusateur de la Vera, elle vient à dire, mais même pas en rêve, on va le laisser avancer celui-là. Et donc, il dit comme ça. Donc, il se voit contraint, en parlant d'Hachem, si l'on peut dire, d'accepter qu'on lui occasionne des obstacles pour lui interdire la voie de la vie en fonction de ce qui lui revient, selon ses mauvaises actions, d'après la justice et l'équité. D'accord? On était arrivé ici la semaine dernière et on voit donc qu'à partir du moment où on veut se rapprocher, Bémet, de la vérité absolue, là, les épreuves, les obstacles, d'accord, ils vont devenir très, très, très intenses. Et on sait que quand tu es dans l'épreuve, tu perds ton da'at. C'est-à-dire que tu perds en fait ta lucidité, tu perds en fait ton bon sens, tu deviens presque un peu idiote. Tu perds toutes tes connaissances. Ensuite, il te dit comme ça, en effet, Dieu ne peut-il pas repousser le jugement puisqu'il aime la justice, d'accord? Néanmoins, puisqu'il aime vraiment Israël et que ce même amour pour Israël est plus grand que son amour pour la justice, que fait donc Dieu, béni soit-il ? Il est, si l'on peut, donc on te dit ici, d'un côté, Hachem, il a créé la justice, et il ne peut pas dire maintenant, je ne veux pas qu'il y ait de la justice, ou alors je veux qu'il y ait de la justice que pour le monde, mais pas pour mes enfants. Non, ce n'est pas possible. Il y a une justice pour tout le monde. Donc ça, c'est Hachem, il a créé la justice, et il aime la justice. Mais, ici, donc il te dit, il est contraint, en réalité, d'accepter ce qui va se passer. Mais, il aime Israël plus que la justice. Et ça, il faut se le rappeler. Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait en général ? Quand tu tombes dans les avérotes, quand tu commences à faire n'importe quoi, d'accord ? Le Yetzer Hara, il rentre en toi, d'accord ? Ta tête, et il commence à te dire « Oh là là, mais t'as fait des choses très graves. » Et puis tu sais, Hachem, il ne va jamais te pardonner. Mais ça, c'est une... ça, c'est ta vera ? Il n'y a pas. Tu ne peux pas faire tchouva. C'est impossible. Et donc, il te pousse comme ça, d'accord, à croire que tu es en fait un cas irrécupérable. Ça, c'est le Yetzer Hara qui te pousse comme ça. Parce que le Yetzer Hara, il faut savoir une chose. Il n'en a rien à faire des avérotes que tu as fait. C'est rien, ça. Rabbeinu, il nous dit, quand tu tombes, sache, il y a deux chutes. La première chute, c'est l'avéra. Ce n'est pas la plus grave. La plus grave, c'est que tu laisses rentrer en toi, d'accord, cette pensée, ce petit lutin qui va te dire... Oulala, mais qu'est-ce que t'as fait là ? Mais c'est vachement grave. Mais comment ? Mais alors, si t'as fait ça, laisse tomber. Donc, c'est fini pour toi. Tu peux même plus avancer. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire Shabbat là maintenant ? Tu vas faire Shabbat maintenant, mais tu viens t'as pas allumé tes bougies ? T'étais en retard. Ou tu vas faire maintenant Shabbat ? Tu vas continuer Shabbat, mais tu viens de faire une avéra. Laisse tomber. Et là, dégringolade. Alors que si tu dis, non, il y a eu ce qu'il y a eu, mais j'avance. J'avance, parce que Rabbi Nachman, il nous l'a dit. Il a dit, attention, ne vous faites pas avoir. Quoi que tu aies pu faire dans ta vie, prends la avéra la plus grosse, la plus énorme que tu veuilles. Avance. Ne te laisse pas attraper par la avéra. Avance. Alors tu vas me dire, mais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Même si tu me dis, mais je ne peux pas arrêter la avéra pour l'instant. Avance. Fais tout ce que tu peux. Fais le reste. Continue le reste. Parce que l'avéra, qu'est-ce qu'elle fait en général ? Elle te pousse à dire, de toute façon, maintenant, c'est fini. Tu as fait la plus grosse avéra de ta vie. Laisse tomber, abandonne. Et toi, tu dis, non, je ne vais pas abandonner. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il m'aime plus que tout. Et Hachem, il va voir que malgré que je fais maintenant l'avéra, à côté de ça, je me rattache à Hachem. Je n'abandonne pas Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je ne vais pas donner, d'accord, au Yetzer Hara de me dire, t'es tombé là, tant pis, tombe là. Tu sais, c'est une succession de c'est un enchaînement. Tu dis non, pas du tout.
Tu ne laisses pas tomber.
Rien.
Un juif, il se relève toujours.
Toujours, mais pas seulement que tu te relèves toujours. Même, regarde jusqu'où je vais. Même que maintenant, tu fais la avéra. On va prendre des exemples concrets.
Ouais, je peux donner un exemple concret. Une femme, mais c'est parce que c'est récent. Donc, une femme qui n'a jamais été au mikvé de sa vie, elle a eu la ménopause, etc., arrivée à un certain âge, elle apprend le mikvé, elle n'a jamais fait le mikvé de sa vie. Et bien, quand elle va se tremper, c'est qu'elle n'a pas abandonné, c'est-à-dire, même si elle se trempe, c'est, elle sera une seule fois, mais elle n'aura pas abandonné le fait d'être désespérée, d'avoir jamais fait ça dans sa vie. Maron, c'est ça ou pas ?
Et plus que ça. Elle rattrapera tous les mikvés de sa vie.
Oui, c'était très beau, franchement. Ah, ouais.
Plus que ça, une femme qui est ménopausée, d'accord ? Tu vas dire, la fille maintenant, elle n'a plus les règles. Pourquoi faire, elle va aller au mikvé ? Non. Parce que de la même manière...
Une dernière fois, voilà.
Parce que de la même manière qu'une jeune fille, du jour où elle reçoit ses premières règles, jusqu'au jour où elle va aller se tremper au mikvé avant son mariage, elle est... en statut de Nida constant. Elle a sur elle, d'accord, l'impureté de Nida. Ok ? De la même manière, une femme qui a la ménopause et que 10 ans, 5 ans, 20 ans, ce que tu veux, d'accord ? Elle n'a pas eu ses règles puisqu'elle est ménopausée, mais elle n'a pas été au mikvé. Cette femme aussi, elle a sur elle, d'accord, cette impureté de Nida. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va aller se tremper au mikvé pour se dégager de cette impureté de Nida. Elle ne sera plus jamais Nida, mais elle aura réparé tous les mikvés qu'elle aura jamais fait dans sa vie. Ça veut dire qu'une femme qui entend ça, si elle n'y va pas, c'est qu'elle est dingue. Sans blague. Ça veut dire, dites-le à vos copines, à vos mères, à vous-même. Allez vous tremper au mikvé. C'est pas la peine de rester comme ça bloqué. C'est rien, on vous apprend, ça prend quoi? Choum d'avar. Allez vous tremper au mikvé, parce que ne croyez pas à l'impureté de Nida. Elle vous colle à la peau. Et je vais vous dire une chose, l'impureté de Nida, eh ben, ça rentre en nous, d'accord, toutes sortes de mauvaises pensées. Ça rentre en nous une sorte de lourdeur, une sorte de mélancolie. Ça s'attrape au cerveau. Faut pas croire que la Nida, c'est rien. C'est pour ça qu'une femme, d'accord, qui est une femme mariée, on se doit, d'accord, lui expliquer, lui dire, tu sais, ne traîne pas dans les comptes 5, 7, et tu dis, bon, pas aujourd'hui, j'irai demain. Chaque jour que tu passes, tu te fais du mal à toi-même. Ne crois pas que tu vas au mikvé pour ton mari. C'est une erreur. C'est ta mitzvah à toi. Que tu te bagarres avec ton mari ou pas, on s'en fiche. On sait pas ce qui va se passer le soir. Après, on s'en fiche. C'est pas très important. Ce qui est important, ne rate pas ta mitzvah à toi d'aller te tremper en temps et en heure. Parce que ça, c'est ta mitzvah.
Mais on dit souvent, par exemple, voilà, mon mari au voyage. Si le deuxième jour, il n'est pas là, on me dit de ne pas aller me tremper parce que il n'est pas là.
Alors, ça dépend. Tu peux aller te tremper et mettre un petit livre de Tehilim sous la tête parce que qui te dit qu'il ne va pas te faire la surprise?
En plus, ça m'est déjà arrivé. Alors, hein.
Oui, je sais.
Donc,
alors,
il vaut y aller en temps.
Il vaut mieux y aller.
Stop.
Écoute, à part si ton...
C'est très énervant en plus.
Ben bah oui, attends, le type il arrive, il te fait la surprise et toi tu dis... Donc, bah oui, c'est énervant. Donc, vaut mieux aller en temps et en heure. Tu fais ta mitzvah et tu te prends un petit Tehilim, tu le mets sous ton oreiller jusqu'à que ton mari y rentre. Tu comprends? Une protection, parce qu'il faut que la femme elle se protège comme ça un petit peu, tu vois. Mais c'est mieux d'aller en... Sauf si c'est le vendredi, parce que ton mari, Bezrat Hashem, il ne va pas venir pendant Shabbat, on espère. On espère. On ne le connaît pas.
Les femmes divorcées, disons une femme qui ne faisait pas nidah, elle a divorcé.
Non.
Elle doit retourner au mikvé?
Non, tu vois.
C'est une bonne question.
Ouais. Non, c'est raté, elle a loupé son truc. Ouais. Une femme divorcée, elle a loupé son truc, et une femme qui est veuve aussi, elle a loupé. C'est que quand tu es mariée. Eh ben, elle a loupé le coche. Elle ne pourra pas aller une femme divorcée.
Elle ne peut pas aller au
mikvé. Elle veut plus. Ben non, pour qui elle va aller au mikvé?
Non, je sais
pas. Pour... Non, mais... pour réparer quoi?
Tu viens de dire
non,
que
c'est non, non. Non, c'est seulement dans le cadre où tu es mariée. Ben non, parce que la touma de la Nida, c'est dans le cadre du mariage. Tu comprends?
Alors, par exemple, imagine ma mère. Âge,
oui.
Qui n'est plus mariée, enfin qui est veuve et qui n'a jamais été au mikvé.
Non. Ben toi, tu vas au mikvé, toi?
Oui.
Alors toi, tu as réparé.
Ah, ok, d'accord. Voilà. Parce que j'ai dit, là, quand je vous entendais juste avant, je me suis dit, bon, ben je vais l'emmener.
Non.
Ah, parce qu'elle est veuve.
Elle est veuve.
Elle mais si par exemple. Elle n'a plus la touma du.
Non. Mais si par exemple, il y en a une de vous, d'accord, elle a sa mame qui est mariée, ok, Baruch HaShem, jusqu'à 120 ans.
Amen.
Hop, on va au mikvé, mame. D'accord?
Il faut avoir un mari, quoi. Pour aller
il faut un mari, ouais. Il faut un mari. Ouais.
Non, mais explique-le.
Il faut l'ustensile. Il faut, pour pouvoir aller au mikvé, il faut avoir le mari. S'il n'y a pas le mari, c'est compliqué.
Ah oui, c'est ça, il protège quoi?
Parce qu'une femme.
Non, qui protège quand ton mari n'est pas arrivé encore de voyage.
Des fois, tu sais, des mauvais esprits ou des choses comme ça. C'est mieux de mettre un Tehilim. C'est mieux.
Quand ton mari est en voyage?
Oui.
Quand tu
as été au mikvé. Quand tu fais mikvé.
Quand ton mari n'est pas là.
Oui, il vaut mieux. Alors,
on continue.
On continue. Bon, en tout cas, Baruch HaShem, je vois que la Torah, elle nous parle. Parce qu'on a tout envie de faire tchouva, là. Tout, on se dit, attends, il faut qu'on répare, qu'on fasse. Bon. Donc... Donc, on a dit qu'à... Oui, alors, pourquoi je vous disais tout ça? Parce que même si, par exemple, d'accord, tu es dans une avéra. Toi, tu as parlé... Si, non, on a fini l'avéra. Mais maintenant, moi, je te dis, regarde. Par exemple, une personne, on va dire, elle ne fait pas Shabbat. Ou elle ne mange pas kasher. D'accord? Son esprit pourrait lui dire, bah, de toute façon, tu ne fais pas Shabbat, tu fais pas ça. Non! Ce que tu peux faire dans Shabbat, fais-le. Accroche-toi à ce que tu peux t'accrocher. ce que tu peux faire dans la cache-route, accroche-toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire, tu vas me dire, écoute, je mange par exemple, je ne sais pas moi, je mange toujours du jambon. D'accord? Bah oui, il y en a qui mangent du jambon. Hein. Bah ok, mais c'est des choses qui existent.
C'est un truc quoi, un peu...
Un peu moins? Bon, allez. Non, mais tu sais qu'on parle à plein de gens, parce que vous, vous croyez quoi? Vous êtes...
Bah, bon, y a personne qui mange.
Tu manges le... D'accord, on mange dans un resto pas cachère.
Pas cachère le poisson, voilà. Allez, allez, on est un peu plus... Bon.
On ne mange que la salade qui est pleine de verre et de tolaïne. D'accord, donc... Alors, on mange dans un restaurant, d'accord. On mange dans un restaurant de poisson parce que, voilà, on ne mange pas la viande, mais on ne mange pas. OK. Donc, tu pourrais dire, bah, de toute façon, non, je ne mange pas spécialement cachère. Et ben voilà, tu dis, ben écoute, je m'accroche quand même. Je fais attention de ne pas manger la viande. Je vais essayer de faire attention chez moi. Tu sais quoi? Si j'ai deux restos, là, un à côté d'autre, je vais aller dans le restaurant. Tu t'accroches dans ce que tu peux. Ce que tu peux, tu t'accroches. Tu sais quoi, je mange le poisson, mais je vais faire en sorte que, je sais pas moi, de pas...
Oui. Vu que je passe par là, il faut quand même accepter le fait que quand on mange dans un restaurant pas cachère, même du poisson, de la salade, ce que tu veux,
d'accord.
Tu manges pas cachère.
Ah ben oui, c'est
non.
sûr.
Non mais non, c'est mais... déjà la base, parce que moi je pensais pas que je mangeais pas cachère.
Ah ben c'est évident.
Non mais
ah, t'as raison.
Moi je mange cachère, je mange pas de viande, je mange pas de poulet, etc. Mais je mange dans un restaurant pas cachère.
Alors, regarde. Déjà, ok, d'accord. Donc, ok. Alors,
je me dis, mais non, je mange cachère.
T'as raison, elle a raison. Alors, regarde, t'as raison.
Du poisson.
Alors, regarde.
Ah, mais moi, je pensais que je mangeais cachère.
Non, bah, alors, oui, regarde. Vois, alors, venons, on se le dit. Venons, on se le dit.
Je préfère dire, je mange pas cachère.
Voilà.
Après, c'est dur, hein, parce que.
Venez. Non, je vais vous dire une chose. Il faut se le dire, un restaurant.
Écoutez,
où il n'y a pas une théouda de cache-route. C'est un restaurant qui soit que poisson, que fromage, que ce que vous voulez. Ce n'est pas cachère. Parce que cachère, c'est pas juste tu dis j'ai pris le poisson, il est cachère ou j'ai pris. Non. Cachère, c'est un tout. Ça veut dire que le lait, il va être chamour. Ça veut dire qu'on va vérifier les aliments, que tout a un hashgacha. Ça veut dire qu'on n'a pas mélangé dans le four. On n'a pas mis le poisson, la viande, le fromage. Ça veut pas dire que, ça veut dire que la vaisselle aussi, c'est un tout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un tout. Donc, c'est soit je mange cachère, soit je ne mange pas cachère. C'est une vérité.
Il y en a qui disent c'est cachère, mais on ne le sait pas.
Alors, c'est pas cachère. Non, c'est
pas
cachère.
Mais justement.
C'est pas cachère. Donc, alors, il vaut mieux...
C'est comme avant, je mangeais chez Makom Shelbassar, à côté, et disait, mais ma viande, elle est cachère. Regarde, elle est cachère. Ok, alors, donc, je mangeais la viande chez Makom Shelbassar. Mais après, le rab, Eliaou, il a dit, ok, mais... Est-ce qu'il cachérise la viande? Je fais, attends, je vais lui demander. Donc j'ai dit, mais non, si je cachérise la viande, voyons, ça n'a pas le même goût. T'as compris ou pas? Non, mais c'est vrai, Bémette, on ne connaît pas. Bien donc sûr. Maintenant, celui qui mange, pour moi, c'était très difficile. Hein. Accepter que je ne mange pas cachère.
Ben voilà, c'est tout, c'est une vérité.
C'est
voilà.
Vérité.
Tu vois, c'est une vérité absolue. Bon, elle n'est pas dans son petit confort cachère, en train de dire, non, mais je mange. C'est une vérité absolue, je ne mange pas cachère. Et ben tu l'assumes.
Mais... Il faut aussi accepter l'idée qu'on est dans un cheminement et que déjà le fait de sélectionner les restaurants où on va et de sélectionner l'aliment que l'on va manger, c'est déjà une démarche.
Oui, c'est ce qu'elle dit.
Et puis petit à petit.
C'est voilà. Sûr.
Mais ce que je disais, c'est que pour être émette, vérité, tu te dis, je ne mange pas cachère. J'essaye de faire des petites choses, mais je ne fais pas le truc. Voilà, c'est ça. Mais moi, je veux duper. Hein.
Mais ça nous arrange. Ça nous arrange parce que c'est.
Mais nous tous, c'est ça ce qu'on a dit. On est dans une zone de confort et on ne veut pas bouger de cette zone de confort. Et c'est comme ça. Alors, on se rapproche.
Rassera.
Donc,
si voilà, moi j'ai appris. Je teste tous les restaurants de Tel Aviv, les amis. Ça m'embêtait. J'ai même appris.
Il n'y avait pas de restaurant. Et à un certain moment donné, après les deux enfants, on toujours au lendemain, ils n'ont pas caché. Maman, moi, je ne vois pas. Oui, mais je viens de réaliser que le restaurant n'est pas. Et parce que je comme.
Bah, Hachem, c'est ça. Mais tu sais quoi? Moi, je me bloquais pour un gâteau. J'ai dit non, je ne veux pas manger cachère pour un gâteau.
Mais imagine, tu vois comment on est enfoncé dans notre matérialité.
Pour un gâteau.
De la bouffe.
C'est pareil.
De la bouffe.
Bah, du coup. Ma fille Sharon, elle me fait mon gâteau.
Bah,
on a réussi. Donc je fais gâteau parvé à la maison.
Donc tu vois que la matérialité, c'est aussi, voilà. D'accord. Ça veut dire les gens, quand ils entendent matérialité, ils se disent bon, c'est les voitures, les machins. C'est aussi en réalité la matérialité, c'est nos tavot, nos pulsions. Ça veut dire nos désirs. Quand des fois t'as la tava de là, du manger, la tava de, tu peux pas. Tu dis non, voilà, c'est des choses qui existent, c'est des tentations qui fait que tu dis mais je peux pas me séparer de ça. Bon, alors évitez comme ça, d'accord. Donc on dit que en effet, Hachem, donc on dit que Hachem, en réalité, donc il peut pas repousser le jugement parce que il aime la justice. Néanmoins, puisqu'il aime vraiment Israël et que ce même amour pour Israël est plus grand que son amour pour la justice, que fait donc Hachem, d'accord. Donc si on peut se dire comme ça, ainsi Hachem, il est tenu, d'accord, d'approuver les obstacles visant un homme à l'empêcher de s'approcher de la vérité. Du fait de la justice et du jugement qui plane contre lui, car Hachem, il aime la justice. Donc, on voit que Akadosh Baruch Hu, plus que la justice, il aime le peuple d'Israël et il nous aime, plus que la justice. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas tellement le choix, puisqu'il a mis en fait des règles dans le monde, donc, il est obligé d'approuver qu'il va y avoir, d'accord, un obstacle devant la personne qui va vouloir se rapprocher d'Hachem, mais. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il aime, d'accord, il aime donc le peuple d'Israël plus que tout. Il va donc, en réalité, se cacher à l'intérieur de l'obstacle lui-même. Donc, il dit comme ça, « Malgré tout, la vérité profonde reste que la volonté et le désir d'Hachem, c'est que l'homme se rapproche quand même de lui, car il aime Israël davantage que la justice. » Donc, d'un côté, tu repousses, Hachem, il te montre Keilou, il te repousse, d'accord, de par les obstacles que tu vas vivre. Mais en vrai, si on pouvait juste tendre un petit peu l'oreille, juste tu tends un peu l'oreille, qu'est-ce que tu serais en train d'entendre? Hachem lui-même qui te dit, mais n'abandonne pas, rêve, parce que moi je veux que tu restes, je veux juste que tu fasses un pas. Si tu fais un pas, j'ouvre tout, juste fais un pas. Je suis obligée de me cacher dans l'obstacle. Parce que, en malasot, j'ai créé une justice comme une maman, d'accord? J'ai fait des règles, j'ai dit non, c'est non. Mais d'un autre côté, juste, viens, fais un pas pour moi, montre que tu t'obstines, malgré l'obstacle, malgré le brouillard, malgré l'obscurité. Et moi, tu vas voir, après, je vais tout ouvrir. Juste, obstine-toi. C'est ça qu'Hachem, il nous dit à chaque instant de notre vie. À chaque instant de notre vie, Akadosh Baruch Hu, il te dit, n'abandonne pas, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Ce que tu vois là, c'est juste un effet, c'est un petit effet comme ça, tu sais, de science-fiction. Ça n'existe pas. Ne m'abandonne pas, surtout ne te laisse pas attraper par ça, justement, par cet obstacle. Ça, c'est ce qu'Hachem, il nous dit à chaque instant. Donc, maintenant qu'on comprend ça, qu'est-ce qu'il dit? Par conséquent, Hachem donne l'autorisation, d'accord, à l'homme de lui occasionner des obstacles. Ça, c'est Hachem qui a donné l'autorisation. Mais lui-même, Akadosh Baruch Hu, se dissimule, si l'on peut dire, à l'intérieur de ces obstacles. Ainsi.
Ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est Hachem?
Aussi.
Ah ouais?
Tout, c'est Hachem.
Non, je sais.
Regarde, mamie, je vais t'expliquer une chose. Akadosh Baruch Hu, il y a un système qui est mis en place, d'accord? Il y a ce monde qui est en réalité un monde de réparation, d'accord? Tout ce monde-là, si on est tous ici, c'est parce qu'on a un job à faire. Sinon, on ne serait pas là. Donc là, c'est la réparation. La réparation pour quoi? Pour le monde futur, le monde éternel, d'accord? Maintenant, tu comprends qu'on ne peut pas te donner ton diplôme, on ne peut pas te donner un 20 sur 20 si tu n'as pas un peu bossé. Tu as des devoirs à faire. Les devoirs, c'est quoi? C'est on va te mettre les obstacles, donc etc., d'accord? Et on te dit, ben voilà, enjambe. C'est ça le devoir. C'est d'enjamber les obstacles. Comment? En t'accrochant à Hachem. D'une manière ou d'une autre, tu t'accroches. Tu t'en fiches. D'abord, une chose que Rabbeinu il nous dit, un conseil précieux, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière. Marche devant. Il t'a dit, moi, je marche devant toi. J'abats les arbres qu'il y a devant toi, les obstacles, rien que marche. Ne te fais pas attraper, ça veut dire par ton dimion, qui te fait croire toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il t'aime plus que tout, plus que sa propre justice. Tu comprends? Donc il te dit comme ça. Ainsi, celui qui est un homme avisé peut trouver Hachem au sein même de l'obstacle. C'est-à-dire, si on ne l'avait pas dit tout ça, d'accord, on ne le saurait pas. Hachem, maintenant que tu sais, ça veut dire dans chaque obstacle, au lieu de dire, oh là là, c'est trop dur, c'est la galère, et comment je vais faire, et c'est quoi ça, et comment... Pas du tout. Ribono shel olam. Je sais que là, tu es là. Là, je sais, on m'a mis, c'est le jeu, d'accord. On est dans un jeu, ok. Et encore une fois, Rabbeinu, il te dit, toute la vie, c'est un jeu, ne te prends pas au jeu. C'est quoi se prendre au jeu? C'est croire que tout ce que je vis, c'est des vérités. Alors qu'il n'y a rien. La vie, c'est un dymion. C'est toute ton imagination. Il n'y a rien qui existe parce que Hachem, il peut changer les choses en 2 secondes. Il n'y a rien qui est bloqué. Donc, quand tu vis un obstacle, quand tu vis une épreuve, quand tu vis une difficulté, quelle qu'elle soit, matérielle, spirituelle, dans le shalom bayit, dans avec tes enfants, la santé, on s'en fiche de tout ce que tu veux, va chercher Hachem. Appelle-le, comme il y a marqué au tout début, on te dit, si on te demande où est, d'accord, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas dire? Akadosh Baruch Hu, il est là, au fin fond de l'obscurité. Il n'est pas dans les hautes sphères, Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin, ça ne l'intéresse pas. Hachem, son grand kiff, c'est d'être avec nous dans les poubelles, d'accord, et de dire, je suis avec vous les filles, je ne vous lâche pas. C'est sale, ça pue, c'est dégoûtant, mais tu sais quoi, moi je ne vous lâche pas. À vous de ne pas me lâcher. Rien que dans ta tête, quand tu dis Hachem, je passe maintenant un moment, où tu es? Dis-moi ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Tu t'accroches à Hachem. Tu vas voir comment, d'un coup, parce que tu as rentré à Hachem, ton histoire, elle est différente. Ton épreuve, elle est déjà différente. L'obstacle, déjà, il n'est plus aussi gros, aussi épais, aussi... Pourquoi? Parce que tu as rentré à Kadosh Baruch Hu. Une histoire, prends la même histoire, mets Hachem et enlève Hachem, tu vois que ce n'est pas la même histoire. Quand tu enlèves Hachem, c'est le désespoir. C'est la tristesse. C'est la dépression. Quand tu mets Hachem, il n'y a que de l'espoir. Il n'y a que de la joie. Pourquoi? Parce que en réalité, quand Rabbeinu il t'a dit, d'accord, mitzvah gedola liot besimcha, et que dans tous les livres de Rabbeinu et dans tous les enseignements que Rabbi Nathan, d'accord, il nous enseigne, il te dit, aïkar, aïkar, reste besimcha. L'essentiel de l'essentiel. Quoi que tu aies fait, quoi qu'il y ait, quoi qu'il s'est passé, reste besimcha. Pourquoi reste besimcha? Bémet, comment tu peux dire une chose pareille? Réfléchis. Comment une personne, elle a fait, il s'est passé, tata, aïkar, aïkar, reste besimcha. Ma Rabbi Nathan, il était dingue. Il était complètement dans le monde des bisounours. Il était... Pas du tout. Est-ce qu'il y avait plus metziouti, plus... Comment on dit metziouti? Plus terre à terre que Rabbi Nathan. Il vivait des galères sans fin. Rabbi Nathan, il a tout vécu. Rabbi Nachman, il a tout vécu aussi. Il a perdu des enfants, il a eu des galères. Tout ce que tu veux, il y a eu. Donc ne croyez pas que notre vie à nous, c'est gens spéciaux. Pas du tout. Est-ce qu'il y avait... Et pourquoi il te dit « Aïkar, aïkar, res besimcha » Parce que la vie est un jeu. Et que quand tu n'es plus besimcha, tu t'es prise au jeu. Et quand tu n'es plus besimcha, ça veut dire qu'en réalité, tu crois, tu as mis Akadosh Baruch Hu en dessous de la vie.
Non, mais il faut
les problèmes.
Hein, il faut quand même avoir un bon niveau. Hein.
Non, mais ça... C'est... Regarde, ça, quand tu dis ça, tu te limites.
Non, on ne se limite pas. Mais faut avoir.
Je veux y arriver.
Ouais.
Je vais y croire, même l'instant, ouais. même le moment, un moment, ça, tu sais quoi
souvent,
une minute. Une minute, j'y crois. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'Hachem? Rien. Mes problèmes, mes histoires, mes... rien. Il n'y a rien qu'au-dessus d'Hachem. Et quand tu places tes histoires au-dessus d'Hachem, là, je peux te dire que tu es en danger.
Alors, je peux raconter un truc vite fait, vite fait,
vas-y.
Vite fait. Parce que je vais le raconter à la fin du cours. En fait, cette semaine, il y a eu un très grand S. Et je vais te le raconter aussi.
Alors, Fadda.
Le fils du Rav Eliyahu Amselem, c'est un Rav qui vient chez nous depuis 6 ans. Un grand, grand, grand tzadik avec sa femme. Ils ont eu un enfant. L'enfant est né avec une malformation il y a 3 ans, etc., cardiaque, etc., tatata. Je vous fais très, très, très rapidement. Bref, il a été opéré une première fois et juste après le mariage de ma fille, ils vont juste une visite de contrôle et là, le médecin lui dit, écoute, il a une boule qui est sortie. On ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne donne pas vraiment de nom, il faut l'opérer d'urgence. On l'opère ce mardi-là. Ok, super. Hier, c'était mardi. Dimanche soir, on va donc ils organisent une affrache. Elle organise une affrache à Trala chez elle. Et là, je vois la Simra. Bah, oui. Et Emmet, avant une opération, je vois la Simra, elle danse, elle truc, elle pleure parce qu'elle nous raconte son histoire. On a tous envie de chialer. Je vous dis, vraiment. Elle pleure, mais elle raconte, et puis elle est là, et elle a, en fait, j'ai compris ton histoire. Donc, elle a passé son histoire en dessous d'HM. Elle a passé HM.
Au-dessus.
Au-dessus d'elle. Le petit s'appelle Aviel. Mon père, c'est HM. C'est ça ? C'est mon père, HM. Donc, on a fait la frachade dimanche soir. On a tous prié, franchement, même pris des choses et tout ça. Le lendemain matin, elle fait la rentrée à l'hôpital avec son fils. Donc, elle rentre, l'admission, etc. Tatata. Et à 1h de l'après-midi, le chirurgien vient voir le petit, il regarde. Il me dit, il n'y a plus de boule. Il n'y a plus rien. Alors, elle m'appelle pour me dire. Maintenant, elle m'appelle pour me dire, mais maître, je ne crois pas ce que j'entends. Je dis, ah super, mazel tov, super. Je raccroche, j'appelle une copine, j'écoute, je crois qu'elle raconte n'importe quoi, là. Rappelle-la, parce que c'est pas possible. Donc, je rappelle Monique, elle l'appelle. Monique me rappelle, elle me dit, mais si c'est vrai, il n'y a plus rien, ils sont sortis de l'hôpital. Le petit ne s'est pas fait opérer.
Pourquoi ? Parce que, je vais te dire pourquoi.
Elle a gardé la Simra 2 jours avant.
Elle a, parce que d'abord.
J'ai dit, moi, c'est moi, tu as compris. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut avoir un niveau quand même de se dire.
Non, je vais te dire.
Son histoire en tour d'âge.
Je vais te dire une chose. L'épreuve, elle était quoi ? Rentrer dans la dépresse, commencer à se plaindre, etc., etc. Elle a placé HM au-dessus, ça veut dire quoi ? HM, c'est toi qui as mis cette boule. HM, c'est toi qui as fait que maintenant on est dans cette situation. Nous, comme on est aveugle, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais HM, lui, oups, très très loin, il voit HM, il sait tout. Donc HM, il sait pourquoi je passe par là. Et on sait qu'HM, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Tu comprends ? Donc quand tu places HM au-dessus, en réalité, et que tu, justement, tu te renforces, et tu fais des mitzvot, et tu fais afrachatrala, et tu tapes des mains. Tu vas annuler des dinim. Quand tu vas annuler des dinim, Rabbi Nachman, il a dit, tu tapes des mains. N'aie pas peur, dans le bus, dans la maison, tu dis aux enfants. Tu sais quoi ? Écoute, je peux te dire une chose. Je peux te dire une chose.
Je tape des mains tout le temps.
Écoute.
Shabbat, je tape des mains comme ça.
Tu sais quoi ? Tu te bagarres avec ton mari, tu dis allez, 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 allez. Tu vas voir, même ton mari va rien comprendre. Il est folle ou quoi ? Hop, ça va dissiper tout ça. Donc, tu tapes des mains, ça annule tous les dinim. Et la simcha, ça annule toutes les rigueurs du monde. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de très grand quand tu places Akadosh Baruch Hu, d'accord, dans ta vie, au-dessus de la vie. C'est-à-dire, d'abord, il y a HM. Et après, il y a les histoires. Quand tu fais comme ça, il t'arrive une épreuve avec un enfant, l'Oalénou, dans toi-même, avec ton mari, dans ton travail, ce que tu veux. Toujours tu places HM. La racine, c'est HM. Quand HM, tu sais que c'est lui qui est au-dessus de tout, donc tu sais que tout découle d'HM. Et qu'est-ce qui a marqué ? HM, il aime ses enfants plus que tout, plus que la justice. HM, tout ce qui va te faire vivre, c'est que pour ton bien éternel. C'est pour que tu vas pouvoir, ça fait partie du process de ta tchouva. Tout ça, c'est HM. Donc, un homme, bémet, que si maintenant il comprend tout ça et il est avisé, eh ben, automatiquement, il va comprendre que quand il vit, d'accord, une situation compliquée, ben, il va chercher HM. Au lieu d'aller se plaindre et grogner et insulter et je sais pas tout casser, non, je vais chercher HM. Qu'est-ce que tu veux de moi, Kadosh Baruch Hu ? On termine et dit comme ça. Donc, ainsi, celui qui est un homme avisé peut trouver HM au sein même des obstacles. Donc, maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Mais en réalité, donc maintenant, tout ce qu'on a dit, d'accord, on a parlé des obstacles, de la vie, des histoires, des machins. Maintenant, il te dit, bon, mais maintenant, en vrai de vrai, maintenant, on va arriver à la vraie vérité, d'accord, à la vérité absolue. Mais en réalité, il n'existe strictement aucun obstacle au monde. Puisqu'au cœur même des obstacles se cache Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a dit ? HM, en réalité, le jeu, parce qu'HM, c'est comme un gosse. Voilà, dis-toi, c'est un gosse. Il joue à cache-cache. Donc lui, il va se cacher, il va te faire, il va se mettre sous la couverture, il va se... Et il te dit, en vrai, puisque maintenant tu as compris, on vient de t'expliquer que HM, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, c'est comme ça, de mettre un obstacle dans ta vie parce qu'il a créé la rigueur, il a créé la justice. Parce qu'Hachem, il aime la justice. Mais comme Hachem, maintenant, il t'aime bien plus que la justice. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise. Il se met des masques, il se met des trucs, il crée, ça veut dire, des situations où, toi, tu vois un obstacle, mais il te dit, mais en vrai, il n'y a pas d'obstacle, d'accord? Pourquoi? Puisqu'en vrai, c'est Hachem lui-même qui se cache là-bas. C'est donc par l'intermédiaire de ces obstacles, précisément, que l'on peut justement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Car c'est là où il se dissimule. Là où il y a d'obscurité, va chercher Hachem. C'est quand tu es dans une sina, ou quand tu prends un livre de Torah là, par exemple, d'accord? Ben oui, c'est facile, oh, on est top, c'est super, on a un texte extraordinaire. On va fermer le livre dans un moment et on va tout retourner, d'accord, dans notre vie. Eh bien, c'est là-bas, c'est dans notre vie, dans ce qu'Hachem va nous faire vivre. Ça veut dire chacune avec son package. Tes problèmes, tes histoires, tes difficultés, tes souffrances, tes incompréhensions, tes joies, tes kiffs, tout ça, c'est Hachem. Ton mari, il est comme ça, et ton enfant, il est comme ça, et toi, tout ça, c'est Hachem. Et à travers toute cette obscurité dans laquelle tu vis, tu dois aller chercher Hachem parce que c'est là-bas où il est Hachem. Hachem, il n'est pas que dans des endroits nickel, propre. Ce n'est pas la Suisse, Hachem. D'accord? Je vous promets, Hachem, c'est plus Las Vegas, Miami. Je ne connais pas ici, mais... Enfin oui, ici aussi, quoi. Quand je disais Tel Aviv, Elat, Jérusalem. Hachem, c'est ça. Hachem, il aime, ça veut dire quand justement, il y a l'obstacle, il y a de la difficulté, il y a, d'accord, un brouillard, et toi tu dis, ben, j'y vais. J'y vais. On te propose de faire une mitzvah, on te propose, je ne sais pas, un voyage pour faire les tzadikim, va. Ne te rentre pas dans des obstacles. Non, mais attends, je ne sais pas si je peux. Est-ce que c'est comme ça? Va.
Ah, vous voulez, ils veulent tous aller au tioul. Alors regarde, j'ai une feuille là, vous allez tous noter votre nom parce que je veux savoir à peu près combien je vais avoir de personnes. J'ai une date, c'est Rosh Chodesh Adar, je trouve que c'est une belle date.
Ah oui, c'est très beau.
Voilà, c'est février, je crois le 24 ou le 25 février.
Ah, c'est mon anniversaire.
Voilà.
En février, moi aussi je suis en février.
25 février ? Ah bah voilà.
Donc,
fêter ton anniversaire chez Rabbi Shimon.
Donc quand on te propose d'aller chez Rabbi Shimon, on te propose de faire une mitzvah. On te propose d'aller chez Rabbi Nachman. On te va, n'attends pas. Pourquoi? Parce que, bah oui, mais pourquoi? Parce que tu vas automatiquement, on te propose en réalité, comme il t'a dit ici, on te propose la vie. On te propose un chemin de vérité. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, attends, deux secondes, il faut que je reste dans mon petit carcan, dans mon petit truc, je ne peux pas bouger, c'est très dangereux, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Attends, tu sais quoi? Dans 6 mois. Mais qui te dit que dans 6 mois, on va te proposer? Tu sais quoi? Attrape. Qu'est-ce qu'il dira, Benou? Tout ce que tu peux attraper, tout ce que tu peux voler comme mitzvot, attrape-les. Parce que tu ne sais pas demain si tu auras l'occasion, tu ne sais pas si tu auras la possibilité. Fais les choses, saute, ne réfléchis pas. Et donc, on termine et il te dit comme ça. C'est en cela que les mots. Moshé s'approcha du brouillard. Parce que vous vous rappelez, on était parti sur un passou. Moshé s'approcha du brouillard, d'accord? En réalité, c'est quoi? Sont apparentés à l'obstacle, car c'est là où se trouvait Hachem. C'est-à-dire que Moshé, d'accord, quand il a vu le brouillard, c'est ça, parce qu'on avait parlé de ça. Le peuple se tint. Il y avait, on parle de tout ça. On est parti du passou. Le peuple se tenait loin et Moshé s'approcha du brouillard. Pourquoi? Car c'est là que se trouvait Hachem. Le peuple, lui, il est resté en arrière. Il s'est dit, ah, non, c'est tu bon. Comprends, c'est compliqué, il y a un truc, il y a un obstacle, je ne suis pas sûr. Hachem, il a dit, mais ça ne va pas ou quoi? On y va, on est des guerriers, j'avance, j'ai pas peur. Et vous aussi, vous n'avez pas peur. Et on est tous des guerriers. On voit un obstacle, on se dit, tu sais quoi? Parce qu'il y a l'obstacle, j'y vais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là-bas que je vais voir Hachem. Tu as une difficulté, d'accord, à faire une mitzvah, à faire un voyage, un pèlerinage, va! Parce que c'est là-bas ta rencontre avec Hachem. Elle se trouvera nulle part ailleurs, ta rencontre avec Akadosh Baruch Hu.
Les tzadikim, ça renforce énormément.
Les tzadikim et le tzadik, je ne t'en parle même pas. Ouais. Le tzadik, c'est connexion à ta neshama direct. Donc, Bezrat Hachem, qu'on ait ce mérite, amen. Nous toutes. Bama, c'était une très belle Torah, ouais, grâce
c'est
à
magnifique.
Dieu. C'est la Torah 115. Qu'on ait tout le mérite, si Dieu veut, Bémet, à travers nos vies, D'accord ? De ne pas se prendre au jeu de la vie et de toujours se rappeler au-dessus de tout, je place Akadosh Baruch Hu. Le reste, c'est rien. Il n'y a pas d'obstacle puisqu'Akadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur de l'obstacle et c'est lui-même qui se dissimule là-bas.
Amen.
Bezrat Hashem.
Amen. Amen.
Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours parce que c'est Hanouka.
Oh.
Mon fils, il n'a pas école.
Bah, prends-le avec toi.
Je suis obligée de rester avec mon fils.